Les journées de l'économie. GECO.
Il y a une expertise qui a été faite par les économistes et aujourd'hui, on se retrouve toujours dans une situation, on se demande pourquoi on n'agit pas.
Nous parlions donc cette question, donc quel modèle français dans un monde globalisé, en quelques mots, qu'est-ce que vous nous proposez, Philippe Aguillon ?
Le problème de la France, c'est que depuis 20 ans, la France décline. Si vous voulez, sa part dans la production mondiale, dans les échanges internationaux, une croissance atone, un chômage qui ne baisse pas, des exportations qui ne sont pas en progression, des déficits qui ne se réduisent pas de manière notable, alors qu'on est un des pays les plus élevés en termes de prélèvements obligatoires, une mobilité sociale qui n'augmente pas. Donc c'est un pays bloqué. Voilà. Alors il y a trois stratégies face à ça. L'un, c'est ce que j'appelle une stratégie au fil de l'eau, qui est de dire on fait des petites réformes à la marge et on attend et on compte, on mise sur une amélioration de la conjoncture internationale. Je pense que cette stratégie ne marche pas. L'autre, c'est le retour, c'est la nostalgie. On retourne au vieux colbertisme. On construit des grandes industries, on industrialise la France par le haut, sur le mode allemand, mais en pensant que c'est le mode allemand, et je pense que ça ne marchera pas non plus. D'ailleurs, on voit avec Volkswagen tout miser sur quelques secteurs, ce n'est pas la bonne idée. Et la troisième méthode qui est celle que je favorise, c'est de dire on fait sauter les verrous et on crée toutes les possibilités pour que la créativité se mette en œuvre. Donc, c'est quoi les verrous ? Les verrous, c'est des marchés du travail qui sont complètement rigides, qu'il faut mobiliser. C'est une formation professionnelle qui ne marche pas, qu'il faut faire marcher pour que les gens rebondissent d'un emploi à un autre, c'est faire tout ce qui fait que la création destructrice de Schumpeter marche. Vous savez, l'innovation, c'est du nouveau qui remplace de l'ancien. Et pour que l'innovation ça marche, il faut évidemment avoir cette flexibilité, ce dynamisme sur le marché du travail et le marché des biens. Il faut des incitations fiscales, il faut une fiscalité qui ne décourage pas l'innovation, ça c'est très important. Et il faut évidemment l'économie du savoir, c'est-à-dire une bonne école, une bonne université. C'est des leviers fondamentaux pour avoir une économie de l'innovation.
Alors justement, vous évoquez donc deux éléments. Je vais parler à partir de votre livre, donc que vous avez publié avec Alexandra Roulet, Réformer l'État, paru chez La République des Idées, c'est
Repenser
ça ?
Repenser l'État.
Repenser l'État, excusez-moi. Donc vous évoquez la piste de la flexicurité en France, qui serait une excellente idée, dont on rappellera les principes en annexe de l'émission. La question que je vous pose, c'est justement, vous soulignez l'importance de l'innovation, mais on sait que le corollaire de la flexicurité, c'est une fiscalité assez lourde pour permettre la viabilité du modèle.
C'est intelligente, la fiscalité. C'est-à-dire qu'elle ne va pas être forcément lourde. Je ne crois pas, par exemple, si vous voulez, sur une fiscalité, je pense de toute façon qu'on pourrait. La TVA peut augmenter un petit peu en France. Moi, je pense qu'on a un peu de marge là-dessus. Je pense aussi que c'est une réforme de l'État. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément augmenter la fiscalité. Je pense que, par exemple, on a deux fois trop de communes en France. On a des départements, là où il y a des métropoles, on n'a pas besoin. On a des intercommunalités. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gâchis, beaucoup d'argent dépensé à ne rien faire du tout. Il faut que cet argent soit remobilisé, redéployé, pour se concentrer sur l'éducation à l'université, la formation professionnelle, vraiment tout ce qui dynamise, dope une économie de l'innovation.
Donc du coup, aucune incompatibilité selon vous, c'est donc toujours un problème de réallocation entre une flexicurité et une innovation.
C'est ce qu'ont fait les Scandinaves. Les Scandinaves n'ont pas augmenté la pression fiscale. Au contraire, ils l'ont allégé, mais ils ont réformé l'État considérablement. Ils ont tiré parti de la révolution de l'Internet, la révolution des télécommunications, des TIC, pour justement, ils ont dit maintenant on a besoin de beaucoup moins de niveaux de gouvernement. On peut rationaliser la gestion de l'État. Et c'est les économies faites là-dessus qui leur ont permis d'abord d'avoir une fiscalité plus incitative, de garder des services publics de bonne qualité et en même temps d'avoir des politiques de marché du travail qui soient compatibles avec une économie de l'innovation.
Alors pour continuer un petit peu plus en avant sur la flexicurité que vous préconisez dans votre livre, on sait également que l'une des conditions de viabilité de la flexicurité, c'est une sorte de dynamisme du modèle qui doit être constamment réadapté face à des chocs exogènes et à des modifications. Est-ce que, compte tenu de la préférence que l'on connaît ou que l'on semble connaître de la France pour une certaine fixité, une certaine rigidité, quelles seraient les conditions d'une mise en place en France d'une flexicurité ?
C'est parce qu'il n'y a pas de filet de sécurité et que les gens n'ont pas de formation professionnelle. Donc il faut d'abord former la formation professionnelle. En Allemagne, vous avez un chèque formation, c'est attaché à l'individu et l'individu choisit son système de formation. En France, c'est attaché aux entreprises, aux syndicats, ce qui n'est pas une bonne idée. Et ça ne finance absolument pas la formation professionnelle. Donc, évidemment, tant qu'il n'y a pas une bonne formation professionnelle et une bonne sécurisation des parcours, les gens sont contre la flexibilité, c'est évident.
Donc ce serait l'étape numéro 1 pour vous vers
C'est une réforme fondamentale. Et vraiment, plus généralement, ce qu'on a à faire, ce qu'on appelait dans la commission Attali, le contrat d'évolution, c'est-à-dire que vous êtes sans arrêt en contrat, mais il y a des moments où vous êtes employé, des moments où vous êtes en formation, mais vous êtes toujours payé.
J'aimerais aborder à présent certains thèmes que vous avez évoqués dans votre livre et qui gravitent autour de cette question d'une réforme vers la flexicurité. Vous critiquez notamment, vous penchez sur les questions d'éducation et vous critiquez notamment un système de transmission des connaissances en France trop vertical, qui justement génère plein d'effets néfastes, notamment une conflictualité dans les relations de travail ou dans une conception dans la société en général.
Il y a eu des travaux très intéressants de Algan, Cahuc, Schleifer sur ces choses-là qui montrent qu'effectivement la relation très verticale conduit ensuite à des relations dans l'entreprise plus conflictuelles, quoi, plus hiérarchiques. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit les élèves qui fassent le cours. Je crois beaucoup quand même dans des classes où le professeur est respecté, où le professeur vous enseigne l'orthographe, le calcul, etc. Mais c'est vrai qu'il faut faire la bonne mesure entre d'abord évidemment l'importance d'accéder aux savoirs fondamentaux, ça c'est très important, mais évidemment d'avoir aussi l'école maternelle, je pense c'est très important parce que c'est à l'école maternelle qu'on apprend à socialiser avec les autres. Et ça, c'est vrai que chez nous, on sous-investissait. Et beaucoup de pays, maintenant, réalisent l'importance de l'école maternelle.
Est-ce que vous avez une appréciation à porter particulière sur les réformes en cours au collège? Est-ce que vous pensez que ça va dans ce sens-là? Est-ce que vous pensez que les réformes portent sur un autre point? Est-ce que vous avez une...
Il y avait certaines idées qui étaient bonnes. Par exemple, l'idée de donner un peu d'autonomie aux établissements me paraît une bonne idée. Mais moi, je pense que, si vous voulez, il faut mettre l'accent sur vraiment la qualité des profs, la formation des professeurs. Les profs aient une très bonne formation et qu'ils soient recyclés régulièrement. Ça, je crois que c'est très important. Deuxièmement, il faut un système de tutorat pour les élèves. Alors je crois qu'il y a un petit peu de ça, mais pas encore trop. Donc ça, je crois que c'est très important. Et je crois qu'il faut mettre beaucoup l'accent sur le calcul et l'orthographe et tout ça, parce que ça, c'est vraiment... Et que les enfants aient la possibilité de faire leurs devoirs à l'école. C'est-à-dire parce qu'il y a des enfants à la maison, ils ne peuvent pas faire leurs devoirs. S'assurer que les devoirs sont faits à l'école, avec des tuteurs. Et que ces matières fondamentales sont prioritaires. Parce que sinon, c'est l'inégalité. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, parce que les enfants riches, ils auront toujours accès aux savoirs fondamentaux, pas les autres. Donc il faut s'assurer que les savoirs fondamentaux sont dispensés.
Et alors, ne pensez-vous pas qu'il y ait un problème de coût avec ça? C'est-à-dire que mettre en place des tutorats, c'est assez coûteux, en fait.
À nouveau, c'est ça que je finance en supprimant les communes et tout ça, quoi, justement.
Et concernant, alors, pour passer donc du primaire, secondaire à l'université, on reproche souvent à l'université...
Que, si vous voulez, les Finlandais ont fait ça avec le même budget que nous. Ils consacrent la même fraction du PIB à l'éducation que nous. Et ils arrivent à faire tout ça.
Donc c'est un problème de réallocation une fois de plus.
C'est
un problème de gouvernance. Donc vous anticipez sur ma question de l'université, puisque vous avez dit très clairement dans la conférence que vous étiez contre la mise en place d'un système à l'américaine qui favorise l'endettement des jeunes avec des frais très élevés. Vous pensez que ça n'a aucune efficacité?
Je suis contre. Et c'est très dangereux parce qu'en fait, on voit que ça décourage les enfants de milieux modestes à poursuivre des études ou à refaire une année s'ils ratent une année, etc. Donc je suis contre. Alors peut-être que les étudiants étrangers qui viennent en France peut-être peuvent avoir des frais universitaires, ça on pourrait faire. Mais je suis contre les frais pour les Scandinaves, c'est tout gratuit et ça marche très très bien.
Et alors, vous qui avez été quand même professeur à Harvard pendant des années, qui connaissez bien ce système-là, quelle fonctionnalité ces frais très élevés opèrent à Harvard? Est-ce qu'ils servent à quelque chose? Comment est-ce qu'on les justifie?
Harvard pourrait s'en passer parce qu'ils ont ce qu'on appelle un endowment, ils ont une richesse, si vous voulez, un patrimoine de 30 milliards de dollars, quoi, ce qui est énorme. Donc ils n'ont pas besoin de ça, en fait. Donc voilà, bon, ça, ils ont cette politique aux États-Unis de frais universitaires très très élevés, mais aussi parce que le gouvernement n'aide pas. Vous comprenez, vous voyez ce que je veux dire? Nous, il faut que ce soit le gouvernement qui aide. Donc c'est important d'avoir un bon système fiscal qui finance l'éducation et l'université. Mais en même temps, il ne doit pas être désincitatif sur l'innovation.
Alors, nous allons aborder encore un autre de vos sujets. Nous faisons une sorte de petit résumé de chacun, plutôt de résumé d'avant-goût de chacun des thèmes abordés dans votre livre. Vous parlez d'une réforme dans le monde de l'entreprise pour diminuer la défiance et la conflictualité. Et cela passe, selon vous, par une nouvelle vision des syndicats et notamment leur redonnant certaines responsabilités. Vous préconisez également, donc, dans ce cadre-là, des réformes des conseils d'administration du côté patronal pour panacher ces ces conseils. Oui. Et vous prenez un exemple qui est celui d'Air France. Alors, les échos avec l'actualité sont peut-être intéressants, puisque vous disiez qu'Air France était un exemple, puisqu'il y avait un tiers d'administrateurs patronaux, un tiers d'administrateurs salariaux et un tiers d'experts indépendants dans le conseil d'administration. Est-ce que l'actualité récente, qui dénote quand même une forte conflictualité au sein d'Air France, dément cette réussite à partir de là? Est-ce que ça s'explique par d'autres facteurs qui sont indépendants d'une certaine gouvernance?
En général, il n'y a jamais un bon climat dans les entreprises. Il y a toujours une défiance et je crois que c'est en partie dû au fait qu'il y a un manque de mobilité dans l'entreprise. La promotion sociale joue un rôle moins important qu'ailleurs pour acquérir des postes importants. Vous voyez, c'est intéressant que dans d'autres compagnies aériennes, souvent, c'est des pilotes qui deviennent directeurs de l'entreprise. Vous voyez, je me demande si ce n'est pas le cas ou en Allemagne ou aux Pays-Bas, je ne veux pas dire de bêtises. Et donc, voilà, ça aurait peut-être été bien que ce soit un pilote qui soit PDG d'Air France. Ça serait pas mal. Je pense que si vous voulez, on privilégier trop ici les grandes écoles comme système pour former les chefs d'entreprise. Et les Polytechniques et l'ENA. Je n'ai rien contre Polytechnique et l'ENA, mais je pense que c'est bon de faire jouer la promotion interne. Et en France, elle joue insuffisamment par rapport à d'autres. Donc ça, c'est évidemment, ça contribue de créer la possibilité de promotion interne. Évidemment, on contribue à créer de la mobilité et du dialogue et de la confiance. Je pense que ça, c'est quelque chose qui, chez nous, manque cruellement. Il y a une séparation toujours entre les décideurs et les non-décideurs. Les décideurs, si on fait les grandes écoles, et les autres, c'est des non-décideurs. Et les décideurs disent ce qui est bon pour le non-décideur. Ça, c'est quelque chose qui doit être dépassé en France. Voilà.
Alors, dernière question, Philippe Aguillon, pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Est-ce que vous pensez que justement une suppression des grandes écoles dans leur forme actuelle, avec pour corollaire justement une réintroduction, une diminution plutôt de la verticalité dont on vient de présenter les effets néfastes, peut être une solution radicale certes, mais une solution bénéfique?
Oh, je ne pense pas qu'il faut casser ce qui marche bien. C'est-à-dire que quand même les grandes écoles sont quand même, c'est des choses de qualité, c'est des formations de qualité, et il y a beaucoup de bonnes choses. Mais je pense qu'il faut dépasser. Voilà, il faut aller. C'est pour ça que j'étais pour les universités d'excellence, parce que ça créait des passerelles entre universités et grandes écoles. Et les passerelles doivent aller dans les deux sens. On doit pouvoir aller à l'université ou à la grande école, intégrer la grande école en troisième année, peut-être après retourner à une formation universitaire en doctorat. Il faut que ces passerelles se développent. Voilà. Il y a trop peu d'élèves à Polytechnique. Il faut développer. Je crois que c'est très important de créer des passerelles entre les écoles. Donc ça ne veut pas dire qu'on les casse, mais on crée des passerelles qui n'existaient pas avant et on donne des deuxièmes chances et des troisièmes chances. On peut avoir raté les concours de l'école normale ou polytechnique, on peut retenter sa chance plus tard et intégrer l'école plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut, et c'est vraiment introduire ces passerelles et cette culture de la deuxième, de la troisième, de la quatrième chance dans notre système éducatif, et pas considérer qu'une fois pour toutes votre classement de sortie à Polytechnique ou à l'ENA décide toute votre vie ce que vous allez être. Parce que ça, c'est un système absurde, quoi. Je veux dire, on peut avoir mal dormi la veille du concours et du coup on se retrouve corps des ponts et pas corps des mines, et ça vous suit toute votre vie. Ça, c'est un système absurde qui n'a plus sa place, quoi. Il faut maintenant, on est dans un monde différent de ça.